Cours sur le Verbe incarné le 24 mai 1985, Rimont.
Terminons la question de la puissance de l'âme de Jésus. Après la science, c'était la puissance, l'article 4. On va rapidement, et puis après nous verrons les déficiences aussi très rapidement, parce qu'il s'agit d'avancer. L'âme du Christ a-t-elle possédé la toute-puissance relativement à l'exécution de sa propre volonté? On lit dans saint Marc, étant entré dans une maison, il voulait que personne ne le sût, mais il ne put demeurer caché. C'est donc que le Christ n'a pas pu réaliser tout ce qu'il voulait. Il y avait Judas aussi. Saint Augustin écrit : il est impossible que la volonté du Sauveur ne s'accomplisse pas. D'ailleurs, il ne peut vouloir ce qu'il sait ne devoir pas se réaliser. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça que saint Augustin remet en lumière. L'âme du Christ a exercé sa volonté d'une double manière. Premièrement, en voulant ce qu'elle voulait accomplir, ce qu'elle pouvait accomplir par elle-même. Et en ce sens, il est très vrai que tout ce qu'elle a voulu, elle a pu le réaliser. Car il ne convenait pas à sa sagesse de vouloir faire par elle-même ce qu'elle savait échapper à son pouvoir. En second lieu, l'âme du Christ a voulu ce qu'elle savait devoir accomplir par la puissance divine, comme la résurrection de son propre corps et les autres œuvres miraculeuses du même genre. À vrai dire, ses œuvres, elle ne pouvait pas les accomplir par sa propre puissance, mais seulement en tant qu'instrument de la divinité, comme il a été dit. Donc, c'est assez simple à comprendre. C'est qu'il y a toujours les deux registres dans le Christ. C'est au fond ça qui est complexe pour nous, mais il y a quelque chose d'analogue en nous. On peut être cause seconde, on peut être instrument. Alors Jésus, évidemment, c'était beaucoup plus précis que pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que nous réalisons en tant qu'instrument de Dieu et d'autres que nous réalisons comme cause seconde. Et ce que nous réalisons comme instrument de Dieu dépasse notre propre volonté. Mais nous avons la volonté d'être instrument de Dieu. Et au fond, c'est cette distinction que fait saint Thomas ici, vous voyez, en disant... Premièrement, en voulant ce qu'elle pouvait accomplir par elle-même. En second lieu, l'âme du Christ a voulu ce qu'elle savait devoir accomplir par la puissance divine, donc comme un instrument. Donc c'est ce double registre qu'il faut comprendre au point de vue de la volonté, au point de vue de l'exécution, au point de vue de la puissance. Alors, réponse à la première objection. Comme le dit saint Augustin, le fait en question dans saint Marc, le Christ l'a voulu. Il est remarquable en effet que la chose se passait aux frontières de la gentilité, où le temps n'était pas encore venu de porter la prédication. Pourtant, il eût été odieux de ne pas accueillir ceux qui, malgré cela, venaient à la foi. Le Christ n'a donc pas voulu être annoncé par les siens, mais il a consenti à ce qu'on le cherchât. Et c'est ce qui s'est réalisé. L'on peut dire encore, donc voyez bien, la volonté en acte et la permission. Il a consenti. C'est évident que ce n'est pas toujours commode à interpréter, mais on voit bien ce qui est présent ici. L'on peut dire encore que cette volonté du Christ n'avait pas pour objet quelque chose que lui-même devait accomplir, mais quelque chose qui devait être réalisé par d'autres que lui. Aussi, lisons-nous dans la lettre du pape Agathon, reçue au VIe Concile, « Le Créateur et le Rédempteur du monde ne pouvait-il donc pas se cacher alors qu'il le voulait ?» À moins que nous rapportions ce texte à la volonté humaine qu'il a daigné assumer dans le temps. La volonté humaine est limitée, puisqu'elle est la volonté des autres. Je veux passer le premier, mais il y en a un autre qui passe devant moi. Ma volonté n'est pas toute puissante, et donc l'autre passe devant. Il y a toujours un renard qui passe devant, n'est-ce pas ? Alors, et pour Jésus, Jésus ne supprimait pas la volonté de ceux qui étaient autour de lui. Et donc sa volonté humaine était limitée, forcément. Mais quand il agissait comme instrument de Dieu, alors sa volonté avait cette efficacité souveraine de l'instrument de Dieu. Seconde objection, le précepte est un signe de volonté. Ainsi que nous l'avons dit dans la première partie, mais le Seigneur a formulé certains préceptes qui se sont trouvés contrariés. On lit en effet dans saint Matthieu qu'à des aveugles guéris, il dit d'un ton sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais s'en étant allé, ils publièrent ses louanges dans tout le pays. Le Christ n'a donc pas pu réaliser tout ce que se proposait sa volonté. Mais c'est intéressant comme lecture de l'Écriture. Alors, réponse de saint Thomas. Comme le dit saint Grégoire, le Seigneur, en prescrivant de ne pas révéler ses miracles, donnait l'exemple aux disciples qui le suivaient, afin qu'eux-mêmes aient le désir de tenir cachés leurs miracles, et que n'y parvenant pas, d'autres se sanctifient à leur exemple. C'est tout un aspect constant qui est donné par rapport à Jésus, que saint Jean Chrysostome reprend constamment. Que beaucoup de choses, Jésus le fait non pas pour lui, mais le fait par rapport à nous. Et donc, c'est pour nous en donner l'exemple. Je crois que tout ce que Jésus fait, on peut dire qu'il le fait pour nous en donner l'exemple, puisqu'il le fait comme tête. Donc il le fait pour nous, dans sa vie apostolique, pour en donner l'exemple. Mais il le fait aussi à titre personnel. C'est là la double interprétation. Le précepte en question indiquait donc la volonté du maître de fuir la gloire humaine. Selon cette parole de saint Jean, « Je ne cherche pas ma propre gloire. » Mais Jésus voulait, d'une façon réelle et absolue, surtout par sa volonté divine, que pour l'utilité des autres, il fut manifesté le miracle produit. Il fut manifesté. Donc cette double volonté, voyez, que nous retrouvons ici. Je ne cherche pas ma propre volonté, mais Jésus voulait d'une façon réelle et absolue, surtout par sa volonté divine, donc en étant instrument de cette volonté divine, que tout ce qu'il fait puisse être une occasion de glorification, une occasion de conversion. Alors, dernière objection. Ce que l'on peut faire soi-même, on ne le demande pas à un autre. Pour la vie commune. Hein. Or, le Seigneur a demandé à son Père, dans la prière, ce qu'il désirait. Il est dit en effet dans saint Luc qu'il se retira sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le Christ n'a donc pu réaliser lui-même tous les objets de son vouloir. Réponse. Le Christ priait pour les choses qui devaient être réalisées par la puissance divine, aussi bien que pour celle que son humaine volonté devait produire, car la puissance et l'opération de l'âme du Christ se trouvaient en dépendance de Dieu, qui opère en tous le vouloir et le faire, ainsi qu'il est dit dans l'épître aux Philippiens. Mais ce sont des explications qui sont intéressantes, dans le sens que on nous montre ces deux claviers dans la volonté du Christ. Ça sera beaucoup plus développé après, quand saint Thomas parlera des deux volontés du Christ. Ici, il le fait, vous voyez, c'est intéressant parce que, au point de vue de la puissance, on a vu la science, on a vu la puissance, et on ne voit pas la volonté. Il amènera la volonté après, pour essayer de mieux comprendre les deux volontés du Christ. Tellement c'est important. Alors, question 14, les déficiences corporelles assumées par Jésus avec la nature humaine. Nous allons aller très vite ici. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas très important. C'est toutes les kénoses possibles, toute la manière dont Jésus pourra s'anéantir. Alors, c'est ici qu'il est montré. Tous les anéantissements que nous essayons de comprendre dans la semaine sainte, tous les anéantissements, bien c'est le fait qu'il a assumé des déficiences corporelles et des déficiences de l'âme. Dans quelle mesure ? Nous avons envisagé maintenant les déficiences que le Christ a assumées avec la nature humaine. Déficiences corporelles d'abord, déficiences de l'âme ensuite. Sur le premier point, nous nous poserons quatre questions. Le Fils de l'homme devait-il assumer avec la nature humaine les déficiences du corps ? Mais au fond, c'est toute une vision, toute une modalité du mystère de l'incarnation. Comment comprendre le mystère de l'incarnation ? Le Verbe assume la nature humaine. Quelle nature humaine a-t-il assumée ? A-t-il accepté d'y être soumis nécessairement ? A-t-il contracté ses déficiences ? A-t-il assumé toutes les déficiences corporelles ? Pour aller vite, je ne veux voir que les réponses rapidement. Le Fils de l'homme devait-il assumer la nature humaine avec ses déficiences corporelles ? Cependant, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, alors faisons très attention à ces phrases que saint Thomas donne au début, qui éclairent font pratiquement toute la question. C'est parce qu'il a souffert et a été lui-même éprouvé qu'il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Déficience corporelle, la capacité de souffrance. Et cette capacité de souffrance, il l'a acceptée pour secourir ceux qui ont été éprouvés. Donc c'est pour la miséricorde. Dites-vous bien ça, quand vous découvrez une déficience corporelle, quand vous découvrez une limite corporelle, découvrez bien, comprenez bien la signification. Puisque c'est Jésus et notre modèle. C'est pour être miséricordieux. Si vous étiez des colosses n'ayant aucune déficience physique, il y a des chances que vous seriez très dur. On disait toujours qu'un prieur devait avoir mal à l'estomac pour être compatissant, bien sûr. Et c'est vrai, quelqu'un qui n'a jamais connu de maladie, est plus dur que quelqu'un qui a pâti. Donc il faut bien comprendre. C'est parce qu'il a souffert et a été lui-même éprouvé qu'il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Or le Fils de Dieu est venu en ce monde précisément pour nous venir en aide. C'est pour cela que David disait « J'ai levé les yeux vers les montagnes ». D'où me viendra le secours ? Il convenait donc que le Fils de Dieu assumât une chair soumise aux infirmités humaines afin de pouvoir en lui, en elle, souffrir et être tenté et par ce moyen nous porter secours. Ça c'est clair, c'est la signification. Alors vous voyez bien qu'ici nous quittons ce que nous avions vu jusqu'à maintenant. Le mystère de l'incarnation pour lui-même, c'est tout de suite la finalité de l'incarnation qui est en cause. Et je ne peux comprendre des déficiences qu'en raison de la finalité. Pourquoi le mystère de l'incarnation ? Pour la rédemption. ce que nous avions vu, les motifs de l'incarnation. Vous vous souvenez, hein, cette question serait très délicate et très nette chez saint Thomas. Hein. Chez saint Thomas, c'est très net. Parce que si je regarde l'Écriture, je vois que le Christ est venu pour nous sauver. Donc il est notre sauveur. Il est notre sauveur par le moyen de la croix. Il aurait pu prendre un autre moyen, mais par le moyen de la croix. Et si c'est par le moyen de la croix qu'il est notre sauveur, c'est donc par la souffrance. Il a opté pour la souffrance, pour nous sauver. Et donc il fallait que lui-même soit capable de souffrir. Il convenait que le corps assumé par le Fils de Dieu fût soumis aux infirmités et aux déficiences humaines, principalement pour trois motifs. Tout d'abord, en effet, le Fils de Dieu est venu en ce monde satisfaire pour le péché de l'homme. Or, on satisfait pour le péché d'un autre en prenant sur soi la peine due à ce péché. Par ailleurs, les infirmités corporelles, comme la mort, la faim, la soif et autres choses semblables, sont le châtiment du péché, lequel a été introduit dans le monde par Adam. Selon cette parole de l'Épître aux Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Il était donc conforme à la fin de l'incarnation que le Christ assuma pour nous ses pénalités de notre chair. Selon la parole d'Isaïe, il a véritablement porté nos infirmités, il a véritablement porté nos misères. Languores nostros ipse tulit. Alors voyez bien, cette vision de la mort, conséquence du péché. La mort n'est pas naturelle pour nous. Pour le biologiste, elle est naturelle, mais pas pour le théologien. Pour le philosophe, elle est naturelle, mais pas pour le théologien. Donc, il faut toujours bien comprendre ça. Et il apprend avec la mort, la faim, la soif et autre chose semblable. Tout cela, conséquence du péché. Or, Jésus vient satisfaire. Deuxièmement, il le fallait encore pour établir notre foi à l'incarnation. Ça, c'est tout à fait un autre motif. Le motif de la satisfaction, n'oubliez pas. Hein. La grande vision. Saint Irénée, Saint Anselme, la satisfaction, c'est une lame de fond à travers toute l'Écriture et à travers toute la tradition. La nature humaine, en effet, ne nous est donnée que sujette à ses déficiences corporelles. Si donc le Fils de Dieu avait assumé une nature humaine sans ses déficiences, on eût pu croire qu'elle n'était pas homme véritable et qu'il n'avait pas, il n'avait qu'une chair imaginaire, ainsi que l'ont prétendu les manichéens. Aussi, lisons-nous dans l'Épître aux Philippiens, il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, en se rendant semblable aux hommes, et il a été reconnu pour homme en tout ce qu'il a paru, en tout ce qu'il a paru de lui. C'est pourquoi, également, Thomas fut ramené à la foi par la vue des plaies, ainsi qu'il est dit dans saint Jean. Donc, seconde raison, la foi dans la nature humaine véritable que le Christ a assumée. Or, la nature humaine, pour nous, est liée à cette capacité de pâtir. Donc, si le Christ n'avait pas cette capacité de pâtir, on croirait qu'il a une nature humaine qui n'est pas la nôtre. Enfin, le Christ nous donne l'exemple de la patience en supportant courageusement les souffrances et les infirmités humaines. De là, cette parole aux Épîtres aux Hébreux, il a soutenu de la part des pécheurs une si violente opposition contre sa personne, afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Donc ça, c'est l'exemple. Il est plus proche de nous à cause de ça. S'il n'y avait pas ça, il serait beaucoup plus lointain. Donc c'est la proximité au point de vue de la cause exemplaire. Alors voyez tout de suite la première objection, c'est intéressant parce que c'est là, on voit très bien que la finalité est là présente. Hein. La satisfaction pour le péché d'un autre a pour matière les peines que l'on souffre pour ce péché. Mais elle a pour principe la disposition habituelle de l'âme qui incline la volonté à satisfaire pour autrui et qui donne à la satisfaction son efficacité. Celle-ci serait impuissante, en effet, si elle ne procédait pas de la charité, comme on le dira plus tard. C'est pourquoi il fallait que l'âme du Christ fût parfaite en science et en vertu pour pouvoir satisfaire, et que son corps fût sujet aux infirmités pour donner à la satisfaction sa matière. Partage des eaux extrêmement intéressant entre les déficiences corporelles et les déficiences de l'âme. Et ceci se comprend en fonction de la finalité, c'est-à-dire la satisfaction. Je crois que c'est facile à comprendre. Voyons tout de suite l'article suivant. Le Christ a-t-il été soumis nécessairement aux déficiences du corps ? L'apôtre écrit aux Romains : Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Or, la condition de notre chair de péché, c'est de se trouver dans la nécessité de mourir et de subir les autres genres de souffrances. Il faut donc également admettre une telle nécessité dans la chair. C'est la mort qui commande tout le reste. Si on est bon pour la mort, c'est pour ça qu'il y a la souffrance, c'est pour ça qu'il y a une grosse déficience. S'il n'y avait pas la mort, il n'y a pas la souffrance. Il y a un double genre de nécessité. Une nécessité, alors ça c'est classique, hein, c'est classique. Ça c'est Aristote. Hein. Et Saint-Thomas relève ça. Très intéressant de voir comment Saint-Thomas se sert de cette distinction aristotélicienne. Hein. La philosophie se sert à la fois. Vous avez une petite réflexion. Il y a une double genre de nécessité. Une nécessité de coaction. Qui a pour principe un agent extérieur. Quand je dis levez-vous. C'est un agent extérieur de violence. Cette nécessité contrarie à la fois la nature et la volonté, qui l'une et l'autre sont des principes intrinsèques. Une nécessité naturelle qui vient des principes naturels d'un être, tel que la forme. C'est ainsi qu'il est nécessaire que le feu chauffe, ou la matière. Ainsi, il est nécessaire que le corps composé d'éléments contraires soit corruptible. Ça, la nécessité biologique. Si l'on considère la nécessité qui vient de la matière, le corps du Christ était nécessairement soumis à la mort et aux autres misères de même sorte. Car ainsi qu'il a été dit, le bon plaisir divin permettait à la chair du Christ de pâtir et d'agir conformément à ses propriétés naturelles. Or, une telle nécessité, nous venons de le dire, vient des principes du corps humain. Si d'autre part, l'on considère la nécessité de coaction en tant qu'elle contrarie la nature corporelle, ici encore le corps du Christ, par la condition de sa propre nature, était soumis nécessairement à l'action des clous qui le perforait et des fouets qui le flagellaient. Mais en tant qu'une telle nécessité répugne à la volonté, il est manifeste que le Christ ne subissait pas nécessairement ses souffrances, qu'il s'agisse de sa volonté divine ou de sa volonté humaine délibérée. C'est seulement par rapport au mouvement naturel de sa volonté qu'on peut dire qu'il subissait une nécessité. car la volonté fuit naturellement la mort et toute souffrance corporelle. Cette solum, et ça c'est très important, cette solum secundum naturalem motum voluntatis proucilicet naturaliter refugit mortem. Pas d'instinct de mort pour saint Thomas, vous voyez. C'est intéressant parce que ça situe l'instinct de mort. Hein. L'instinct de mort n'est pas au niveau naturel. Il est au niveau d'un conditionnement humain de quelqu'un qui n'en peut plus. C'est pas naturel. Situation limite. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de mourir. Il n'y a plus que cette solution-là. Celui qui est trop fatigué, il n'en peut plus. Mais ce n'est pas naturel. Au sens naturel philosophique. Hein. Comme au niveau psychologique, vous ne pouvez pas faire la distinction entre l'état de nature et la nature, vous pouvez vous confondre les deux. Alors, vous voyez bien ce qui est donné ici et ce qui est dit ici. Le Christ a-t-il été soumis nécessairement aux déficiences du corps? Alors, précisons, n'est-ce pas, et comprenons bien. S'il assume un corps comme le nôtre, c'est-à-dire un corps mortel, nécessairement, il assume toutes les conséquences, n'est-ce pas, nécessairement dans ce sens-là. Mais nécessairement pas dans le sens de coaction, dans le sens absolu. Il n'a pas subi. C'est en vue de la finalité qu'il l'a accepté. Ça a été pleinement accepté. Ce n'est pas une nécessité qui contrarie sa volonté. Ça ne peut pas être une nécessité qui contrarie sa volonté. Le Christ a-t-il contracté les déficiences corporelles? Oui. Si préciser le statut particulier de l'état de déficience du Christ. Oui. C'est ça qui est intéressant à voir. Ces déficiences sont contractées du fait du péché, selon cette parole de l'Épître aux Romains. Pas par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Mais dans le Christ, il n'y avait pas place pour le péché. Le Christ n'a donc pas contracté les déficiences corporelles. Alors, conclusion. Dans le mot contracté, in verbo contraendi, intelligitur ordo effectus ad causa. Dans le mot « contracté » est inclus le rapport d'effet à cause. Car on dit que quelque chose est contracté quand il se trouve attiré nécessairement dans un sujet en même temps que sa cause. Or, la cause de la mort et des déficiences de la nature humaine, c'est le péché. Car par le péché, la mort est entrée dans ce monde. Ainsi qu'il est dit dans l'Épître aux Romains. Dès lors, ces déficiences sont contractées à proprement parler par ceux-là seulement qui les encourent du fait de la dette du péché. Mais le Christ n'a pas connu ces déficiences à cause de la dette du péché, car ainsi que s'exprime saint Augustin, commentant cette parole de saint Jean, celui qui vient d'en haut, est au-dessus de tous. Le Christ vient d'en haut, c'est-à-dire de ces hauteurs que connut la nature humaine avant le péché du premier homme. C'est David qui regarde la montagne. Il a pris en effet une nature humaine sans péché, avec cette pureté en laquelle elle se trouvait dans l'état d'innocence. Et de cette même manière, il aurait pu assumer une nature humaine sans déficience. Il apparaît donc que le Christ n'a pas contracté les déficiences corporelles comme s'il les avait reçues en vertu d'une dette du péché. et qu'il les a assumés de sa propre volonté. C'est net. Vous voyez, c'est pas si comme un peu ça. Hein. Arriver à bien saisir exactement le statut particulier de cet état capable de mourir et de souffrir. Le Christ devait-il assumer toutes les déficiences corporelles des hommes ? Là encore, ça va être le point de vue de la satisfaction. Des contraires, cependant, des contraires ne peuvent se trouver en même temps dans le même sujet. Or, certaines infirmités se contrarient naturellement, étant causées par des principes opposés. Le Christ n'a donc pas pu assumer toutes les infirmités humaines. Le Christ a assumé les déficiences de l'homme en vue de satisfaire pour le péché de la nature humaine. Et pour cela, il fallait qu'elle possédât aussi dans son âme la perfection de la science et de la grâce. Dès lors, le Christ devait assumer les déficiences qui viennent du péché commun à toute la nature et qui en même temps n'entrave pas la perfection de la science et de la grâce. Ainsi donc, il ne convenait pas qu'il prît sur lui toutes les déficiences ou infirmités humaines. Il y a en effet parmi elles qui s'opposent à la perfection de la science et de la grâce, telle l'ignorance, l'inclination au mal, la difficulté à faire le bien. D'autre part, il y a certaines déficiences qui ne sont pas communes à toute la nature humaine et ne proviennent pas directement du péché de notre premier père. Elles se trouvent chez certains individus et ont des causes spéciales, telles la lèpre, le mal caduque, des fièvres particulières, n'est-ce pas, et autre chose de ce genre. Tantôt, elles sont produites par la faute de l'homme, comme par exemple par une nourriture déréglée. Tantôt, elles proviennent d'un défaut de conformation. Or, ni l'une ni l'autre de ces causes ne s'applique au Christ, car sa chair a été conçue de l'Esprit Saint, dont la sagesse et la puissance sont infinies, et qui ne peut se tromper ni déchoir de plus, le Christ lui-même n'a introduit nul désordre dans la conduite de sa vie. Mais il y a certaines déficiences qui se trouvent communément dans tous les hommes du fait du péché de notre premier père. Ce sont la mort, la faim, la soif et autre chose de ce genre. Toutes ces déficiences, le Christ les a prises à son comportement. Les a prises à son compte. Damasène les appelle les passions naturelles et non déformantes. Naturelles parce que communes à toute la nature humaine, non déformantes parce qu'elles n'impliquent pas un défaut de science et de grâce. Donc c'est le grand principe, une fois qu'on a saisi ça. Le grand principe, c'est le mystère de la satisfaction. C'est ça qui mesure, pour le théologien, les convenances de toutes les déficiences que Jésus a acceptées. Alors, on voit ensuite la racine de ces déficiences par le fondement. Il y a la finalité et le fondement. Vous voyez, c'est le double raisonnement que nous retrouvons dans ce raisonnement théologique. Oui.
Maintenant, qu'il y a une exclusion entre la plénitude de grâce et la mort.
Ça y est, c'est ton mari. La plénitude de grâce n'apporte pas nécessairement l'exclusion de la mort. Mais il n'y a pas une redondance immédiate. Ce serait un petit messianisme temporaire.
Alors, déficience de l'âme assumée par le Christ.
Pourquoi est-ce qu'on a choisi grâce et science?
La grâce, c'est la vie tout à l'heure. Il y a un ordre scientifique. Hein. Il y a un ordre scientifique. Oui, il y a un ordre scientifique. Il avait précédemment
la grâce et la science. Et vous pouvez demander pourquoi avait-il dit que ça. Alors, je crois toujours la même raison, c'est que seule la science permet de hiérarchiser les objets. Et ça va le rendre en ça. C'est pas la volonté. C'est pas la puissance. Donc la grâce, on comprend, puisque le mystère de la grâce est en connexion directe avec le mystère de l'union hypostatique, et la science qui permet de graduer la qualité particulière d'une nature assumée par le Verbe. Oui. C'est la raison. Oui.
On peut appliquer ces mêmes principes pour la Vierge Marie.
Je crois. Avec la différence, c'est que ce serait relatif à la satisfaction de Jésus. C'est-à-dire, comprenons bien. Jésus est le seul qui satisfait. C'est la même chose qu'il faut voir. L'unique médiateur du côté de la justice, c'est Jésus. Donc, de ce côté-là, ça ne joue pas par rapport à Marie. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que le mystère du Christ est un mystère d'amour par lequel Marie peut coopérer. Alors, par là, nous avons le point de vue de la coopération dans l'ordre de la rédemption. Co-rédemptrice. Et c'est pour pouvoir vivre le mystère de l'union, de l'alliance entre époux et épouse, que Marie vivra tout ce qu'elle a vécu. Donc, pour pouvoir vivre le complément, ce qui montre la passion de Dieu. C'est pas donc pas le même principe, si vous voulez, puisque d'un côté, ça regarde directement Jésus, de l'autre côté, je dirais, c'est la finalité du Christ. Or, Marie vient s'ajouter gratuitement et pas nécessairement. Ce n'est pas de l'ordre de la nécessité de justice, c'est de l'ordre de la nécessité de l'amour. Oui.
Est-ce qu'il est inconvenant que le Christ ait subi des déficiences non communes, telles et telles maladies ?
Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour ça qu'il prend l'élément, parce que c'est la satisfaction.
Mais pour quelle raison est-ce inconvenant ?
À cause de la nature humaine du Christ qui est assumée par le Verbe, et que ça ne relève pas de sa mission.
Ce n'est pas nécessaire la satisfaction.
Ah, c'est pas nécessaire la satisfaction. Il satisfait pour la fête commune, en premier lieu.
Le sommeil, ça rentre dans les conséquences des péchés.
Vous voulez savoir combien de temps Jésus dormait. Voyez, ceci relève de ce qu'il dit à propos de la nature humaine, la corruptibilité de la nature humaine. Il est normal pour la nature humaine de voir ce cycle de la nature, de dormir et d'être éveillé. C'est normal. Ça fait partie du cycle de Dieu. Mais Jésus assume certaines fragilités de la nature en vue de la satisfaction. Alors, vous pouvez dire que, en raison du péché originel, l'homme doit dormir plus. Sûrement. À cause de la fragilité dans laquelle il est. Et c'est pour ça qu'il essaiera toujours de dormir moins pour rester plus éveillé dans la charité. Oui, ça c'est sûr.
Quand Dieu, pour certains saints, permet qu'il y ait un temps de sommeil très éveillé, même des fois.
Oui, oui. Là, c'était quasi une intervention de Dieu, là. C'est pour ça que c'est pas imitable. Sauf une grâce particulière. Hein. Alors, les déficiences de l'âme assumées par le Christ avec la nature humaine. Il nous reste à considérer les déficiences relatives à l'âme. Et à ce sujet, 10 questions se présentent.
le péché se trouvait-il dans le Christ? Y a-t-il en lui un foyer de péché? Y a-t-il en lui l'ignorance? Son âme était-elle passible? Était-elle sujet à la douleur sensible? A-t-il éprouvé de la tristesse? A-t-il éprouvé de la crainte? Le Christ a-t-il éprouvé de l'admiration? Le Christ a-t-il ressenti de la colère? Le Christ fut-il à la fois pèlerin et bienheureux? On poserait aujourd'hui la question, le Christ a-t-il connu l'angoisse? Au Moyen-Âge, on ne se posait pas, mais aujourd'hui, nous nous posons. Qui a-t-il connu l'angoisse? On peut ajouter ça, si vous voulez. C'est forcé. Dans notre monde d'aujourd'hui, il faut poser la question. Et les psychanalystes se poseraient tout de suite la question. Est-ce que la psychiatrie avait quelque chose à dire sur le Christ? Ou est-ce que la psychiatrie s'arrête? Est-ce que le Christ avait besoin d'un médecin et d'un homéopathe? Si je vous demandais d'y répondre, j'aurais des questions et toutes les réponses plus diverses. Alors, le péché se trouvait-il dans le Christ? Et l'angoisse, ça vaut la peine de se traiter la question.
Oui. Qu'il a supéré l'effroi et l'angoisse.
Oui, mais il faut voir ce que c'est que cette angoisse. Est-ce que c'est l'angoisse psychologique? C'est ça que je pose la question. Oui. Pour justement éviter, quand on traite de l'agonie, de regarder l'angoisse psychologique.
Oui. Marie étant immaculée conception, il n'a pas pu connaître l'angoisse.
Ben, c'est la question posée par rapport au Christ et par rapport à Marie.
Il n'a pas pu la connaître si elle est immaculée conception.
Oui, mais raison même du mystère de la croix, où il acceptait certaines déficiences, elle devait-il accepter ces déficiences-là?
Psychologiquement, je veux dire, il n'a pas pu la connaître.
Psychologiquement, il était d'une certaine manière au-delà. C'est vrai, c'est ce que nous voulons aussi. Hein? Mais est-ce qu'en raison du but de la satisfaction, il devait le connaître?
Il a peut-être assumé, en raison de la satisfaction. Oui. Assumé, prise, mais.
Oui. S'il a assumé, il l'a connu.
Il l'a porté.
Ah oui, il l'a connu.
Selon la réponse de Saint Damasène, ce serait un défaut, un non, je ne sais pas comment il y a traduit.
Quelque chose,
l'angoisse, c'est quelque chose qui va contre la science.
Oui, oui.
À défaut, c'est quelque
contre
chose.
Contre la science et la.
À défaut, ça relèverait soit d'un défaut naturel.
On va voir ça, on va voir. Le péché se trouvait-il dans le Christ? Le péché, c'est facile. Le Christ lui-même a dit, qui de vous me convaincra du péché? Comme nous l'avons dit précédemment, le Christ a pris nos déficiences en vue de satisfaire pour nous. Vous voyez, le grand principe, c'est ça. Et quand on dit ça, c'est toujours ces principes-là qu'on doit mettre en pleine lumière. Hein. Tout le reste, c'est des conclusions. Alors, c'est de saisir le principe, là, pour saisir qu'est-ce qui commande sa vision du mystère de la rédemption. C'est ici que nous entrons, hein. Commençons, génétiquement, vous voyez, avoir le lien entre incarnation et rédemption. La première pierre posée, c'est satisfaction. Comme nous l'avons dit précédemment, le Christ a pris nos déficiences en vue de satisfaire pour nous, pour manifester la vérité de sa nature humaine. Et enfin, pour nous donner l'exemple de la vertu. Trois raisons pour les déficiences. Or, à ces différents points de vue, il est manifeste qu'il ne devait pas prendre sur lui les déficiences du péché. En premier lieu, en effet, le péché ne sert à rien pour la satisfaction. Sauf ce que dit Mauriac. Mais ça, c'est du Mauriac, et c'est pas la paire de l'Église. C'est bien. Il y a un nombre de l'Église.
Si elle avait péché, elle serait plus proche de moi. Si le Christ avait péché, il serait plus proche de moi. Mais comme il n'a pas péché, il est loin de moi. Vous voyez, psychologiquement, c'est très intéressant, cette réflexion de Jacques. À ces différents points de vue, il est manifeste qu'il ne devait pas prendre sur lui la déficience du péché. En premier lieu, en effet, le péché ne sert à rien pour la satisfaction. Bien plus, il lui retire sa valeur, car ainsi qu'il est dit dans l'Ecclésiastique, le Très-Haut n'agrée pas les dons des méchants. De même, le péché n'est pas une preuve de la vérité. Le péché n'est pas une preuve de la vérité de la nature humaine. Il ne fait pas partie, en effet, de cette nature qui a Dieu pour tout. C'est la justification de Moria, mais pas la nature. Donc, cet individu particulier, il est plutôt introduit contre la nature par une semence du diable, ainsi que s'exprime Damascène. Enfin, en péchant, le Christ ne pouvait pas donner l'exemple des vertus, le péché étant le contraire de la vertu. Le Christ n'a donc d'aucune manière